très bien. Mais cet ordre-là me convient bien, puisque je vais intervenir sur les questions d'incertitude, et Nicolas, travaillant sur les objets, interviendra plutôt sur les questions ou les pratiques de stabilisation. Alors, juste un mot très rapide pour dire comment j'ai lu le travail d'Olivier Schwartz. Rassurez-vous, je ne vais pas parler de mon travail, mais j'ai simplement situé ma lecture ici. J'ai d'abord lu les travaux d'Olivier et les autres travaux déjà précités dans le cadre d'une recherche que j'ai effectuée en thèse sur les ouvriers de la métallurgie en Belgique, une thèse qui s'est située dans les enquêtes assez traditionnelles de la sociologie du travail consacrées à la division du groupe ouvrier dans l'entreprise en confrontation avec différentes mesures de réorganisation du travail. Matinée, toutefois, c'est peut-être une petite particularité d'une historiographie assumée à partir de sources de première main. Mais j'ai surtout réutilisé ce travail à l'occasion d'une revisite sur ce terrain de thèse que j'ai mené il y a quelques années, où là j'ai déporté le regard davantage sur le dehors de l'usine. Et c'est plutôt à la lumière de cette réappropriation à nouveau de ce travail que je l'ai relu et dont je vais en préciser ici les contours de la relecture, qui se concentre principalement sur la question donc de l'incertitude de la condition ouvrière. Par ailleurs, j'en dis vite un mot, je ne savais pas très bien où le placer, donc je vais le dire d'emblée. L'impression quand même que cet ouvrage, Stéphane Beau l'a souligné tout à l'heure, par son mode d'écriture et son mode d'analyse, prête à des lectures très variées. C'est un mode d'écriture un peu singulier de l'ethnographie qui revient longuement sur les cas et qui remet le cas sur l'établi, on pourrait dire, c'est-à-dire en traitant le cas des cas individuels à de nombreuses reprises dans l'ouvrage sous différents aspects, qui donne à la fois matière à établissement de conclusions fortes. Constitution par exemple de catégories d'analyse, que ce soit en termes de mode de consommation, d'organisation de la famille, etc., qui sont très bien établies, mais qui donnent toujours l'occasion de déborder les catégorisations opérées, ce qui est quand même relativement rare, et donc qui donne toujours l'occasion au lecteur de se réapproprier un peu différemment l'analyse présentée, ce qui est tout à fait précieux dans ce mode d'écriture, d'établir des décalages d'analyse par rapport à ceux proposés, et ce qui était tout à fait essentiel pour moi dans la mesure où je travaillais à partir d'un autre point de vue, celui du travail, qui n'est pas ignoré évidemment dans l'ouvrage, mais qui n'est pas tout à fait central non plus. Donc, de manière générale, dans cet ouvrage et à la suite dans l'HDR consacré au monde populaire, Olivier Schwartz précise à plusieurs reprises les caractéristiques de la position ouvrière dans le monde social, qui ont déjà été répétées, donc une forme de soumission, d'insécurité, de dépossession, caractérise à des degrés divers la condition prolétarienne. Je reprends ici les termes d'Olivier Schwartz. Comme l'ont montré d'autres travaux sur les classes populaires, en effet, celles-ci occupent une position dominée de dépendance ou d'assujettissement économique, d'une part. Elles possèdent peu ou pas grand-chose dans l'espace social. Mais à cette position dominée est associée une autre caractéristique qui n'est pas complètement nécessaire à cette position de bassesse dans l'espace social, qui est l'exposition récurrente au manque ou à l'insécurité. Il y a donc là deux dimensions distinctes, me semble, de la caractérisation de la population ici ouvrière, ou plus généralement des mondes populaires, qui ont été très bien mises en valeur dans les travaux historiens qu'a rappelé Nicolas Hatzfeld, notamment ceux de Lequin, de Noiriel ou encore de Lütke, sur lesquels s'appuie en partie Olivier Schwartz dans son ouvrage, ou encore dans les travaux de Michel Verret, sociologue, mais qui se fait volontiers aussi historien, qui précise bien que la condition prolétarienne ou la condition ouvrière se caractérise à la fois par une sujétion dans la division du travail, une usure liée à la condition du producteur et une insécurité sur le marché du travail. Alors le thème de l'incertitude, il n'est pas traité en soi dans le monde privé des ouvriers, il ne ferait pas l'objet d'une partie qui est consacrée explicitement, mais il me semble qu'il apparaît plus qu'en creux tout au travers de l'ouvrage, qui peut en donner une lecture qui nous amène à la fois à penser cette condition ouvrière donc au début des années 80, mais plus largement avant et après cette période considérée dans l'ouvrage. C'est un sujet difficile à traiter, il me semble, j'aurai l'occasion d'y revenir, que celui d'appréhender les temporalités à la fois vécues et anticipées par les acteurs sociaux, dans la mesure où elle oblige l'ethnographe à déplacer l'analyse d'une analyse synchronique pour prendre en compte la durée, ce qui peut se faire par divers moyens, par des entretiens biographiques ou rétrospectifs, plutôt biographiques dans ce cas, ou des prises de des recueils de paroles en situation, sujet de trajectoire, ou encore à l'occasion d'ethnographies de très longue durée, comme on peut les réaliser Stéphane Beau et Michel Pialou, par exemple. Alors j'essaie ici de pointer quelques caractéristiques liées à cette condition d'incertitude et les chantiers qu'elle pourrait ouvrir dans l'étude des mondes ouvriers plus contemporains. Alors une des premières caractéristiques, c'est évidemment l'incertitude liée aux conditions d'emploi et de travail. Les phénomènes de fermeture d'usines, de restructuration, de réorganisation, de déstabilisation des travailleurs stables, pour reprendre la formule bien connue aujourd'hui, qui sont observés dans l'ouvrage, présentent une image de dégradation des conditions de sécurité d'emploi. Une image maintenant plus largement traitée par les travaux de sciences sociales consacrés à la précarité de l'emploi. Et de ce point de vue, l'ouvrage, comme d'autres d'ailleurs, pointe une transformation majeure des conditions d'emploi donc à la fin des années 70, sur laquelle on a déjà un peu revenu, en particulier ici lorsque les puits de mines disparaissent ou s'éteignent progressivement. Et comme on peut le lire au travers de plusieurs exemples de carrières retracées, souvent de manière un peu éclatée dans l'ouvrage, ce qui donne lieu donc à cette diversité de lectures qu'on peut opérer. Je prends par exemple le cas de la carrière d'André, page 80 dans l'ancienne édition, disons, dans la première édition, carrière sur laquelle je reviendrai. Donc André, ouvrier qualifié d'une quarantaine d'années dans une usine métallurgique, représente typiquement les franges ouvrières montantes. Et c'est un ouvrier qui situe les bonnes années de sa carrière au début de la décennie 70, au moment où les salaires progressaient régulièrement et où le chômage, on n'y croyait pas, dit-il, qui contraste assez nettement avec la situation qu'il connaît au début des années 80, lorsqu'André entre dans la tourmente en raison des contractions des carnets de commandes de l'entreprise qui entraînent un recours très important au chômage partiel et au licenciement massif dans son usine. Il échappe à ces licenciements. Mais, Olivier nous dit, les 5 années écoulées ont été vécues dans une insécurité permanente pour lui et sa femme, qui se traduisent par des crises de spasmophilie pour lui et des épisodes de très grande fatigue, voire des évanouissements pour elle. Pour un autre type d'emploi, et c'est là où peut-être l'ouvrage ne traite pas uniquement du monde de la mine, bien au contraire, on peut voir beaucoup d'exemples d'autres types de travailleurs. Donc pour un autre exemple de type d'emploi, moins qualifié ici et du côté des employés de service, je prendrai le cas d'Evelyne, qui est particulièrement illustratif de ces moments de grande précarité. Fille de mineur et de femme au foyer, femme de technicien ayant commencé sa carrière comme OS, elle travaille depuis son mariage, mais elle a connu une carrière professionnelle particulièrement heurtée. D'abord comme vendeuse chez un fromager sur les marchés. Elle trouve ensuite un emploi qu'elle occupe pendant plusieurs années, proche de celui qu'elle a déjà réalisé, comme vendeuse à la coupe dans un supermarché, dont on peut imaginer qu'il est plus satisfaisant sous différents aspects, de conditions de travail et probablement de salaire. Mais elle fait l'objet d'un plan de licenciement collectif et elle n'aura de cesse ensuite de retrouver un emploi sillonnant la région sur sa mobylette. Elle retrouve d'ailleurs un emploi assez rapidement, de même nature, dans une grande surface qui ouvre ses portes. Mais le projet échoue finalement. Elle n'est pas recrutée et devient alors intérimaire pompiste chez un garagiste. Un contrat fragile où le salaire est parfois incertain, qui n'est pas renouvelé. Et sa persévérance, appuyée par son mari, lui permet de retrouver après quelques mois un emploi de femme de ménage dans un autre garage, en remplacement d'une autre travailleuse licenciée pour absentéisme. Et Olivier de conclure ainsi que l'on mesure à travers ce cas la somme des compétences et de mobilisation nécessaires à la conquête du plus simple emploi. Alors ces deux portraits rapidement présentés appelle plusieurs commentaires, il me semble. Il témoigne à la fois de l'investissement fort d'une partie des classes populaires pour l'accès à l'emploi et au maintien, pour une partie d'entre eux, de positions dans l'espace de travail. Mais on pourrait y ajouter d'autres questions. Tout d'abord, au sujet de la lecture en termes de rupture des années 80, qui a déjà été abordée dans la discussion précédente, que certaines transformations peuvent encourager, comme la désindustrialisation, le développement des contrats courts, etc., des aspects très bien connus. On peut imaginer aujourd'hui qu'à la lecture de travaux d'historiographie plus récents consacrés au parcours des franges basses du monde ouvrier, les ouvriers migrants, les ouvrières, etc., voire de travaux plus anciens, comme ceux de Chambardelot, qui relèvent son étonnement au travers de la lecture de son échantillon dans la vie quotidienne des familles ouvrières. Il marque son étonnement sur l'instabilité inattendue des ouvriers qu'il étudie. Et il repère notamment que 24% des personnes qu'il a étudiées ont changé plus de 11 fois de place, et seuls 10% de la population n'a changé qu'une seule fois ou pas du tout d'employeur. On peut également se reporter à des travaux plus récents consacrés au monde des petits employés. Je pense par exemple à la recherche qu'a menée Anne-Sophie Beau sur les personnels de grands magasins, qui permettent peut-être d'interroger, ou sinon d'interroger, au moins de nuancer la grande rupture de la fin des années 70. Autrement dit, ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que le cas d'Evelyne exprime une trajectoire de l'après-1980, ou ne pourrait-on retrouver bien des exemples de ce type de trajectoire au sein du salariat peu qualifié en amont des années 80? Et d'ailleurs, le cas d'André l'exprime aussi de manière plus indirecte. Lorsqu'il évoque sa stabilité au début des années 70, il la situe par rapport aux fermetures de plus petites usines dans son entourage géographique à la même période. C'est d'ailleurs un phénomène qui n'est pas complètement réservé aux petites entreprises, comme l'ont souligné certains travaux historiographiques plus récents sur les restructurations industrielles dans les années 60. Il s'agirait alors de penser que pour une partie du salariat subalterne et des mondes ouvriers, la parenthèse des années 1945-1980, présentée par certains, notamment par Susanna Narodsky et Nico Besnier, comme une anomalie historique, limitée d'un point de vue géographique, associée plutôt au pays du Nord, évidemment, et limitée dans le temps, n'est peut-être pas une parenthèse complètement enchantée, malgré la mise en place de dispositifs d'encadrement de la relation salariale par des conventions collectives, des protections contre les licenciements collectifs, etc. Et du côté de la frange la plus stable du salariat ouvrier, on peut s'interroger sur la nature de cette stabilisation dès lors qu'on ne la saisit pas à partir de la fixation ou non dans une entreprise, mais lorsque l'on observe plus finement les déplacements imposés de postes et les transformations de la nature du travail. De ce point de vue, l'ouvrage aborde assez peu la question de la nature des tâches professionnelles, ce n'est pas du tout son objet central, il s'agit ici d'une critique loin de là, mais ce n'est pas l'objet de l'ouvrage. Donc, laisse peut-être en partie de côté la question de la nature des tâches professionnelles, présentes ou passées des acteurs étudiés, ce qui interroge quand même un petit peu le fait de cette mise, non pas à l'écart, mais de cette secondarisation partielle de la question du travail. Un chapitre y est consacré toutefois. Je me suis interrogé en relisant encore l'ouvrage dernièrement, à savoir, est-ce qu'il s'agit complètement d'un choix d'objet, donc ici celui du monde privé, qui justifie le fait qu'on voit peu ces ouvrières, ces ouvriers évoquer la nature de leur pratique professionnelle. Est-ce que c'est ce choix d'objet qui justifie le fait qu'on en parle peu? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments explicatifs à apporter à ce choix? En gros, est-ce que cela provient donc d'un choix épistémologique de ta part, ou d'une volonté par les acteurs de marquer la frontière entre univers professionnel et univers du monde privé? Que ce soit parce qu'ils ont crainte de se dévaloriser en relatant le monde professionnel et des positions basses au sein de la division du travail, d'un côté, ou que ce soit au contraire, tu illustres à travers différents exemples, au contraire, pour signifier une forme d'autonomie dans les pratiques sociales et culturelles qu'ils peuvent témoigner en dehors du monde de l'usine. Plus fondamentalement, donc dans cet ouvrage, on repère des processus de déstabilisation subjective liés au contexte perturbé du travail dans lesquels les ouvriers naviguent, même s'ils échappent eux-mêmes aux mesures de licenciement ou de réorganisation. C'est par exemple le cas de Michel, chef d'équipe, qui manifeste un engagement prudent dans ses acquisitions, ne se risquant pas à la propriété immobilière, alors qu'on licencie même des cadres, dit-il, dans son entreprise, ce qu'il prend comme un signe de forte incertitude sur son avenir professionnel. Il ne s'agit pas ici de considérer une forme d'incertitude permanente pour les ouvriers qui se traduirait par des comportements de repli ou de crainte systématique de l'avenir. Au contraire, comme tu le fais à de nombreuses reprises dans l'ouvrage, tu t'empresses, après avoir livré l'exemple de Michel, de complexifier le cadre d'analyse en présentant d'autres situations d'ouvriers plus bas dans l'échelle du travail qui s'engagent dans l'accès à la propriété et se montrent plus ouverts sur l'avenir. Mais on peut tout de même se demander comment se vivent ces moments de réorganisation, voire de restructuration d'entreprise, où l'activité de travail, ou ce que l'on pourrait appeler d'une certaine manière l'intelligence du travail, est remise en cause à l'occasion de changements organisationnels ou techniques, des moments où des savoirs et des savoir-faire établis dans la durée, individuellement et collectivement, peuvent faire l'objet de critiques publiques, notamment par l'encadrement des entreprises, voire même se remettre en cause quant à leur utilité à l'occasion des licenciements collectifs. De ce point de vue, des petits déplacements, notamment à l'occasion de changements de tâches, sans pour autant être associés à des changements de poste ou d'entreprise, qui échappent donc de ce fait au regard de la statistique publique, peuvent pour certains constituer des modifications assez profondes de leur rapport au travail. À l'inverse, ces moments pourraient aussi constituer, la question est en tout cas ouverte sur ce point, des étapes de réenchantement lorsque l'on fait partie des élus qui ont passé les turbulences et qui, pour certains d'entre eux, ont pu leur profiter ou ont pu profiter des départs pour accéder à des postes supérieurs. Ce n'est pas toujours le cas, comme pour André, qui voit toujours se réduire, et cela de manière assez progressive, des espoirs d'ascension par la promotion et limite alors son engagement au travail, et participe à établir progressivement une très nette séparation entre un univers professionnel dans lequel il s'engage assez peu, finalement. Il fait le boulot bien, mais sans plus. Un univers professionnel donc qu'il distingue très nettement de sa vie privée. Pareil. C'est ce type de travaux, tel qu'on peut le lire dans cet ouvrage, qui m'amène personnellement à interroger les variations du rapport au travail et l'on pourrait dire plus largement les représentations de l'ordre social lorsqu'on est soumis à des réorganisations qui ont leur propre temporalité mais qui se répètent dans la vie des ouvriers, même pour les franges les plus stables. Et l'on peut penser ici que la répétition de ces mises en question et de ces réenchantements n'est probablement pas sans effet sur leur représentation du monde social plus général. Deuxième aspect de l'incertitude, moi j'ai oublié de regarder l'heure.
Ça fait un quart d'heure.
Très bien, donc je vais aller beaucoup plus vite sur les deux autres aspects. Deuxième aspect de l'incertitude, c'est bien évidemment l'incertitude économique, qui est tout à fait liée à l'incertitude d'emploi et de travail. Les trajectoires d'emploi heurtées se traduisent bien évidemment en termes de trajectoire financière heurtée elle-même. Les passages de l'ouvrage consacrés aux pratiques familiales de gestion de l'argent et aux modes de consommation sont ici évidemment centrales dans l'analyse. Je pense qu'on y reviendra dans plusieurs interventions de l'après-midi. Je voudrais pour ma part insister sur les variations des entrées dans le monde ouvrier et plus largement dans les mondes populaires, dans la mesure où ce point a probablement été moins travaillé par la littérature des sciences sociales, qui a beaucoup insisté sur la bassesse des revenus des classes populaires et moins sur leurs variations. Ce qui était au cœur, par exemple, des analyses de Lütke, qui insistait au contraire sur les variations régulières, les fluctuations constantes des revenus et l'imprévisibilité des revenus des ouvriers à la fin du XIXe siècle. est peut-être moins prise en compte aujourd'hui, ce qui supposerait, et ça rend l'enquête assez délicate, d'établir des formes de comptabilité familiale ou d'ethnocomptabilité, comme on dit maintenant, qui demande évidemment des investissements assez conséquents de la part du chercheur. Mais on peut repérer dans l'ouvrage ici des variations sur le court terme et des imprévisibilités de revenus qui ne sont pas sans conséquences. Et ce sont peut-être là des éléments assez précieux qui vont à rebours d'une lecture en termes de relative stabilisation des revenus ouvriers depuis l'après 1945, lié à la mise en place de l'assurance sociale, disons de l'encadrement partiel de l'accès au logement, de la mise en place des conventions collectives, du salaire minimum, etc., de la disparition progressive du salaire aux pièces ou au rendement pour un salaire au temps, de la mensualisation des ouvriers, bon, etc., etc. Du côté des ouvriers stables, il me semble que l'on retrouve dans cet ouvrage les constats établis par François Bourguignon et Christian Morisson dans leur analyse statistique sur les profils de carrière d'un échantillon d'ouvriers dans les années 50 à 70 et qui insistent sur la dichotomie assez nette des ouvriers de travaillant dans des petites et moyennes entreprises, qui se caractérise par une absence de carrière ascendante et une forte mobilité entre entreprises, et des ouvriers travaillant dans des plus grandes entreprises où les avancements salariaux sont réguliers mais différenciés selon les ouvriers, une différenciation qui se joue essentiellement avant 35 ans. Il souligne bien que les aléas de conjoncture sont répercutés sur les salaires par des baisses de salaire, par la modulation du nombre d'heures, voire, si l'on reprend les termes de l'ouvrage, ici dans le cas d'Evelyne, et de sa première expérience de garage, c'est même l'assurance d'être payé qui est ici en jeu. Pour les ouvriers des petites entreprises, mais aussi de plus grandes, comme dans le cas d'André et d'autres dans l'ouvrage, le chômage partiel semble constituer un élément essentiel dans la constitution d'une prévisibilité salariale pour ce salariat subalterne masculin, au même titre que la variation des heures de travail peut la constituer pour le salariat subalterne féminin. De ce point de vue, ces variations horaires imposées et donc salariales mériteraient d'être certainement davantage étudiées aujourd'hui, alors que le chômage partiel est utilisé massivement depuis la crise de 2008 sur de très longues périodes, peut-être à la différence de l'époque, encore qu'au début des années 80, ça se passait peut-être de la même manière, c'est-à-dire qu'on a pu utiliser le chômage partiel de les années 90 de manière plus modérée, en lien avec la conjoncture, en établissant un début et une fin du chômage partiel, disant par exemple aux ouvriers, vous allez chômer une semaine. Il me semble que depuis 2008, la fin n'est pas connue. On peut envoyer des ouvriers au chômage partiel pendant plusieurs mois, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique essentiellement, sans leur signifier la fin de cette période. Il me semble aussi que par ailleurs que la question des heures supplémentaires mériterait d'être davantage traitée. On sait que les ouvriers utilisent, ou du moins sont soumis ou contraints ou utilisent, ça doit certainement varier selon les situations, ou cumulent, disons, pour le dire de manière plus neutre, davantage les heures supplémentaires que les autres catégories sociales, et sont soumis, disons qu'une partie de leur salaire est soumise à des variations liées à des primes, qu'elles soient liées à la qualité du travail, le travail au rendement, ou à la quantité du travail, le rendement n'a pas disparu. Certains travaux plus contemporains, par exemple, portant sur les travailleurs de la logistique, montrent qu'il est encore particulièrement répandu dans ces secteurs. Et la proportion du salaire attaché à des primes n'est guère différente entre les différentes catégories sociales, en particulier entre les catégories ouvrières aujourd'hui et les catégories de cadres. Il me semble qu'à la lecture de l'ouvrage d'Olivier, cette question notamment du chômage partiel ou des primes, je vais plutôt me saisir simplement du chômage partiel, parce que je vois que le temps presse, pourrait être étudiée en déplaçant un peu la question. Donc je vous ai dit, elle est assez peu étudiée dans les problématiques d'analyse des mondes ouvriers. Il me semble qu'à la lecture de l'ouvrage, on pourrait à la fois étudier l'importance de ce recours au chômage partiel et de l'imprévisibilité qui est en jeu dans ce recours, en termes salariaux, mais aussi en termes de présence dans l'univers familial. Dans la mesure où les personnes en chômage partiel sont renvoyées du côté de la famille pour des périodes plus ou moins longues qu'il s'agit d'occuper, qui peuvent bouleverser l'économie du ménage dès lors que les deux personnes sont actives ou non. Enfin, troisième point, peut-être un peu moins traité, mais présent tout de même dans l'ouvrage, celui des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la question plus générale de la détérioration des corps. Il est signalé à plusieurs reprises la menace permanente que fait peser l'accident dans les mondes ouvriers, en particulier dans les mondes ouvriers mineurs. À d'autres moments, Olivier travaille la question des maladies professionnelles, en particulier ce qu'on pourrait désigner aujourd'hui les maladies liées aux risques psychosociaux. Pas du tout appelé comme ça, mais il est fréquemment question de problématiques de dépression, de tensions nerveuses, que ce soit auprès d'ouvrières ou d'ouvriers, ce qui n'est peut-être pas si courant, qui n'avait peut-être pas été traité très en profondeur jusque-là. C'est le cas pour André et sa compagne, je l'ai déjà dit, c'est le cas pour la dépression de Jean-Paul, etc. Je ne vais pas recenser ici l'ensemble des éléments. Là encore, il me semble que cette question est vraiment très importante pour étudier les mondes ouvriers et l'incertitude qu'elle révèle. Dans la mesure où on a peut-être affaire à deux processus un peu distincts, celui de l'accident et de la maladie, mais qui aboutissent tout de même, finalement, à la question de la dégradation physique des personnes. L'accident, il s'agit donc ici d'une rupture nette qui peut transformer, disons, une trajectoire biographique, professionnelle et de vie, de manière assez radicale, que ce soit sous la forme d'un accident grave ou de la multiplication de petites blessures que rencontrent bon nombre d'ouvriers et d'ouvrières dans leur espace de travail. On a affaire aussi à un autre mode d'affection, qui est celui de la maladie, qui peut prendre des formes différentes, mais qui s'inscrivent plus généralement dans la durée. Excusez-moi. 5 minutes. Donc je vais aller très très vite là-dessus. Alors. Il me semble qu'en travaillant sur ces passages consacrés à ce rapport au corps et qui demanderait certainement une discussion plus approfondie sur laquelle je n'ai pas le temps de revenir, notamment sur l'engagement des corps et la prise de risque, où il me semble que l'on pourrait discuter de cette question à partir de cet ouvrage, je vais la laisser de côté, mais qu'à partir de ce type de raisonnement, on peut reprendre le programme exposé par Cottereau dans L'usure au travail, exposé donc dans le numéro du mouvement social au début des années 80, 83 il me semble, s'en prenant de manière critique à l'histoire sociale, ayant travaillé davantage l'encadrement institutionnel des maladies et de la santé au travail, et laissant de côté la manière dont est vécue ces affections par les travailleurs eux-mêmes et par les ouvriers en l'occurrence. Aujourd'hui, on dispose d'un grand nombre de travaux sur l'encadrement institutionnel et la reconnaissance des maladies professionnelles, un petit peu moins sur les accidents. On dispose de quelques travaux empiriques sur la gestion collective, organisée et militante de la problématique des accidents du travail. On en dispose peut-être un peu moins sur la manière dont des personnes vivent ces incidents dans leur trajectoire professionnelle et sociale. Et c'est probablement à cette lecture qu'invite ces passages consacrés à cette détérioration des corps, qui peut modifier considérablement la trajectoire anticipée des travailleurs dans leur univers professionnel, mais aussi peut-être, là c'est un aspect que je connais beaucoup moins et qu'aime beaucoup plus travailler Olivier, peut-être aussi la place dans l'univers familial, et ce qui renvoie peut-être aussi à la question des désirs évoqués par Dominique tout à l'heure. Il est d'ailleurs notable que la question des corps masculins soit peut-être moins traité que la question des corps féminins dans l'univers de la maisonnée. Or, on peut imaginer que ces formes de détérioration sont importantes pour ces ouvriers, qu'elles ne sont pas sans conséquences pour eux dans leur forme de représentation de soi et de rapport aux autres. Et cette question, j'en terminerai par là sur les accidents, me semble d'autant plus importante aujourd'hui à travailler dans les trajectoires ouvrières que la position passe des ouvriers n'a guère évolué, enfin elle a évolué évidemment, s'est transformée depuis une trentaine d'années, mais elle n'a pas évolué relativement. Ce que montrent les dernières enquêtes statistiques sur la population ouvrière, c'est qu'elle vieillit. Elle reste toujours plus jeune que les autres groupes sociaux, mais elle vieillit aujourd'hui. Et l'on peut imaginer que la question de la dégradation ici se fera encore plus prégnante qu'elle ne l'a été auparavant. Je vais conclure ici assez rapidement sur cette question-là. Donc, il me semble que sur cette question de l'incertitude, l'ouvrage donne à la fois des éléments pour la comprendre et livre des pistes pour approfondir cette question-là qui n'est pas simple, dans la mesure où, quand elle est traitée, elle est souvent traitée de manière globale, notamment dans certains travaux historiographiques, pas toujours. C'est-à-dire qu'on renvoie l'ouvrier saisi dans une position d'incertitude de manière générale. Or, quand on la travaille de près, on voit émerger des temporalités, parfois concordantes, parfois contradictoires, liées à la position dans l'espace de travail, au changement de la nature de la pratique de travail, liées à l'espace de la famille, aux conditions salariales, aux conditions des corps, etc. Des temporalités qui ne sont pas non plus linéaires, qui peuvent se traduire par des formes de dégradation, mais aussi des moments de réenchantement dans la trajectoire sociale, et donc qui demanderait comme une finesse analyse assez pointue, qui demanderait également de travailler par traces, traces dans les entretiens, traces dans les archives, traces dans un suivi longitudinal sur de longues durées, complexe à saisir. On pourrait difficilement se départir de cette analyse probablement par traces sur ces questions-là. Et je terminerai par là. Lorsque j'ai soulevé ici plusieurs points liés au monde de l'incertitude, certains ont davantage été travaillés dans l'ouvrage que d'autres. Il me semble qu'on pouvait difficilement faire beaucoup mieux à partir d'une enquête ethnographique, que le risque est grand pour l'ethnographie de se voir toujours demander de tout saisir dans son espace d'enquête. Ici, il y a déjà beaucoup de saisies. Olivier disait, bon, j'ai pas travaillé l'histoire. Bien sûr, on ne peut pas tout travailler. Il y a probablement une forme de malentendu sur la méthode de l'ethnographie que les ethnographes peut-être entretiennent de manière consciente ou inconsciente, peu importe, à leur demander de saisir l'ensemble de la vie des individus qu'ils étudient. C'est peut-être par piste et par segment que nous aurons à documenter ces diverses questions. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Cédric. Alors, on n'en attendait pas moins de ta part, mais cette lecture du vu de la SOGIE et de l'histoire du travail et de l'emploi est excessivement stimulante. Mais je vais devoir contraindre les réactions de mon voisin de gauche et passer tout de suite la parole à Nicolas.
Merci Nicolas.